Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire criminelle culte des années 30 à Paris. Le meurtre dans son bureau en 1933 du directeur du cinéma Le Palace, Oscar Dufresne. Comme il était ouvertement homosexuel, cette enquête nous fait entrer dans l'univers très secret de ce qu'on appelait à l'époque les avertis, ou les hommes aux mœurs spéciales. C'est une affaire criminelle que je vous raconte, mais c'est aussi de l'ethnologie. J'ai en grande partie tiré ce récit du livre de Florence Tamagne, qui est historienne et maître de conférences à l'université de Lille 3, « Le crime du palace » chez Payot. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Commençons par le décor de cette histoire. Le music-hall culte des années 20 et des années 30 à Paris. Le Palace, rue du Faubourg-Montmartre. Le music-hall qui, en 1923, a osé faire danser sur scène une femme quasiment nue, simulant un rapport sexuel. Oh, que ça a fait du bruit, ça. Mais qu'est-ce que ça a eu comme succès? La presse bien-pensante a joué les vierges effarouchées, mais la salle était pleine tous les soirs. Le Palace, dans ces années-là, c'est l'endroit où on s'amuse à Paris. Et avec le succès du cinéma parlant, c'est devenu le plus beau cinéma de Paris. Et tout ça sous la férule d'un homme de génie, le patron Oscar Dufresne. Le soir du 25 septembre 1933, le comptable du Palace toque à la porte d'Oscar Dufresne. Il est minuit 20. Le cinéma vient de fermer. Comme tous les soirs, il vient juste saluer son patron. Mais il ne répond pas. Alors il ouvre la porte. Le bureau est plongé dans le noir.
C'est bizarre, ça. Je pensais qu'il était encore là.
Et il va tout de suite chercher Henri Varnat, l'associé de Dufresne, qui rapplique avec le projectionniste. Et tous les trois, ils pénètrent dans le bureau. Et il voit tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Parce qu'il y a eu une tache de sang sur le parquet. Et près du bureau, un matelas posé sur le tapis, enroulé. Henri Varnat soulève le matelas, il déplie le tapis et il découvre le corps d'Oscar Dufresne. Le directeur du palace a été assassiné dans son bureau. C'est un événement considérable. Parce qu'Oscar Dufresne, à l'époque, c'est une légende du monde du spectacle. Il a commencé à 16 ans en clouant des décors dans un théâtre. Et après une petite carrière de comédien, il a fini par décrocher le rôle ultime de directeur de théâtre. Et avec lui, théâtre, hein, c'est au pluriel. Parce qu'au moment de son assassinat, en plus du palace, Dufresne dirige le Concert Mayol, le Moncey Music Hall, les Bouffes du Nord, le Bataclan, le Casino de Trouville, le Casino de Paris, et il a fait construire le Théâtre de l'Empire. Et avec ça, politicien, conseiller municipal du 10e arrondissement de Paris et conseiller général de la Seine. Et par ailleurs, président du syndicat des directeurs de spectacle et impresario du plus célèbre chanteur de l'époque, Félix Mayol, qui vient de signer l'un de ses plus grands tubes.
Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.
Mais Dufresne, qui est là, enroulé dans le tapis de son bureau, était encore plus que ça. C'était le roi des nuits parisiennes, le pape des années folles. La presse moraliste l'appelle l'exhibeur de cuisses. Et disons-le tout de suite, parce que c'est important à savoir au moment où s'ouvre cette enquête, c'était un averti, un homosexuel, à l'époque on disait un pédéraste, et de notoriété publique, hein, sans vraiment se cacher. Et son associé, Henri Varnat, est aussi, comme le chanteur Félix Mayol et le chanteur Jean Sablon, qui est de toutes les revues d'Oscar. Et lui, qui était donc de la jaquette fleurie, comme on disait aussi, pour draguer, n'avait pas besoin d'aller bien loin. Vous êtes déjà allé au Palace? Ça existe toujours, hein. Ça a été une boîte de nuit gay. Aujourd'hui, c'est un théâtre. Mais rien n'a changé. En haut, tout en haut, il y a une sorte de galerie où on assiste au spectacle debout, dans la pénombre. On appelle ça un promenoir. Il y en a dans la plupart des salles de spectacle de l'époque. Et en vérité, dans la pénombre, c'est là qu'on se drague entre garçons. Oscar Dufresne y passait le plus clair de son temps. C'était bien commode, hein. Les jeunes garçons savaient bien sûr que c'était le patron. Ils venaient se frotter à lui. Et il n'avait que deux portes à pousser pour les conduire dans son bureau. Et plus si affinité. Tout ça pour dire que quand on le retrouve mort, le soir du 25 septembre 1933, baignant dans une mare de sang au pied de son bureau, on pense tout de suite à un de ses garçons. Les policiers arrivent au palace vers minuit et demi. Et ils découvrent la scène de crime. C'est un grand bureau avec deux fenêtres, un canapé, des fauteuils, des placards, un lavabo et un coffre-fort. Le cadavre, c'est un peu délicat. Il est à moitié nu. Il a le pantalon et le caleçon à mi-cuisse, la chemise est ouverte, elle est pleine de sang. Le gilet et le veston sont posés sur un fauteuil près de la fenêtre. Il paraît clair qu'il a été tué en plein ébat. Oui, c'est très clair. Le légiste arrive à son tour. Il prend la température du cadavre. Il est froid, mais il est encore souple. Dès lors, je dirais que le crime a eu lieu entre 22h et 22h30. Le légiste note aussi des plaies profondes sur le crâne, qui semblent coller avec les éclaboussures de sang sur le mur et même sur le plafond. Eh bien, pour que le sang atteigne le plafond, les coups ont dû être très violents. Qu'est-ce que c'est ça dans le lavabo, là? C'est une serviette mouillée, commissaire. Elle est tachée de sang. Il a dû se laver les mains avant de s'enfuir. Quant au mobile, le secrétaire de M. Dufresne a sa petite idée. Le portefeuille d'Oscar a disparu. Il avait environ 1 000 francs sur lui. Et d'après ce que je vois, il manque aussi sa montre en or. Et en faisant le tour de son bureau, il s'aperçoit qu'il manque aussi son porte-mine, en or lui aussi, et son trousseau de clés, et donc la clé du coffre-fort. On l'aurait tué pour le dépouiller. « Dites-moi, monsieur, vous êtes son secrétaire, n'est-ce pas ?»« Oui. Oui, je m'appelle Serge Nicolesco. »« Vous savez si monsieur Dufresne avait un rendez-vous ce soir ?»« Ah non. Ah non, je peux vous l'assurer, il n'avait rendez-vous avec personne. » Vous savez ce qu'il a fait dans la soirée? Oui, oui. Il a dîné chez moi, avec sa sœur Sidonie et un autre de nos amis. On a joué aux cartes jusqu'à 9h30. Et puis je l'ai ramené au palace. Vous avez senti chez lui une inquiétude? Ah non, non. Il était d'humeur joyeuse, comme à son habitude. Rien n'a signalé, et c'est comme ça avec tous les proches du patron. Même son chauffeur joue les saintes nitouches.
Dites-moi, monsieur, à votre connaissance, est-ce que monsieur Dufresne avait l'habitude de recevoir des hommes dans son bureau pour des relations intimes, si vous voyez ce que je veux dire?
Monsieur Dufresne? Avec des garçons?
Je ne savais pas qu'il avait des mœurs spéciales.
Et le pire, c'est Henri Varnas, son associé depuis 15 ans, qui de notoriété publique a été son amant.
Ah! J'ignorais totalement que mon associé pouvait avoir des relations particulières. Vous me l'apprenez.
Mais quelle bande de faux culs! Parce qu'en vérité, tout le monde sait que Dufresne a entretenu des relations intimes avec son secrétaire, Nicolesco, avec le chanteur Jean Sablon et avec son associé Henri Varnas. Alors pourquoi est-ce qu'ils mentent, tous? Eh bien parce qu'on est en 1933. Certes, les années folles ont libéré les mœurs. Dans les milieux festifs parisiens, il y a des hommes qui vont avec des hommes et des femmes qui vont avec des femmes. Mais de là à reconnaître la chose publiquement, non. On n'en est pas là. Et puis, ils protègent sa mémoire. Et ils ne veulent pas qu'on réduise le grand Oscar Dufresne à des coucheries entre garçons. C'était un grand directeur de théâtre, tout de même. Un inventeur, un précurseur, un type qui a senti son époque comme personne. Les gens du palace ne veulent pas que le goût de leur patron pour les jeunes minés fasse oublier le reste. Et donc, en ce début d'enquête, ils n'aident pas beaucoup la police. Il n'y en a qu'un qui est prêt à appeler un chat, et un garçon. C'est le chanteur Jean Sablon. Dufresne l'a produit récemment en spectacle avec Mistinguette. Et dans quelques mois, Sablon deviendra une star absolue avec cette chanson.
Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Quelle raison ce soir, passez-vous sans me voir.
Lui, Jean Sablon, il est homosexuel et il en parle librement. C'est courageux à l'époque. Et quand la police vient le voir, moi personnellement, je ne vois strictement aucun mal à évoquer les relations particulières d'Oscar, ni même le fait que j'ai été son amant. Vous avez une idée de qui a pu l'assassiner ?
J'en ai une, oui. Son secrétaire, Nicolesco. C'est l'un de ses anciens amants et vous ne trouverez pas grand monde au palace pour en dire du bien. Il est d'une jalousie maladive. Il piquait des crises à chaque fois qu'Oscar rencontrait un garçon. Une fois, il l'a même mordu. Tout le monde connaît cette histoire. C'est une peste. C'est une peste, je vous dis. Et d'ailleurs, à ma connaissance, Oscar lui avait demandé de se trouver une autre place.
Ah ah! Et vous pensez qu'il peut l'avoir tué?
Oh, ça, je ne sais pas. Mais Oscar m'a dit un jour, il est complètement fou. Il vient tenter de se suicider, qu'il se suicide s'il le veut, mais je ne veux pas qu'il fasse autant pour moi. Je tiens ma vie à moi, je me souviens, il m'a dit ça.
D'entrée donc, Serge Nicolesco, le secrétaire, devient le suspect numéro 1, avec pour mobile la jalousie. Les policiers retournent donc le voir.
Vous étiez en conflit avec Monsieur Dufresne ? On nous a dit qu'il était sur le point de vous renvoyer.
Oh, mais pas du tout.
Qui vous a dit ça ? C'est vrai que nous avons été brouillés quelque temps. Mais depuis leur rentrée, nos relations s'étaient apaisées, vraiment. J'en veux pour preuve qu'il dînait chez moi hier soir. Est-ce que vous dîneriez, vous, avec quelqu'un que vous ne supportez pas ? Pourriez-vous néanmoins nous donner votre emploi du temps détaillé, hier soir, monsieur Nicolesco?
Bien entendu. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons dîné chez moi avec des amis. Il était là. Et puis je l'ai conduit au palace vers 9h30. Ensuite, je suis allé garer sa voiture au garage de la rue de Chailloux. Et puis j'ai regagné mon domicile et je me suis couché.
Vers quelle heure?
Vers les 10h. Et on m'a réveillé vers 2h du matin pour m'apprendre la triste nouvelle.
La première journée d'enquête se conclut ainsi, sur un vague soupçon, assez peu étayé, finalement. En revanche, le lendemain, les langues se délient. C'est l'administrateur du cinéma, Joseph Auduit, qui crache le morceau. Oui, ce soir-là, Oscar Dufresne avait bien rendez-vous avec un garçon.
Ce garçon, je l'ai vu arriver. Vers les 10h moins le quart. Il avait un calot à pompons, vous savez, un béret de marin. C'était un jeune marin, je pense. Et il s'est présenté avec un billet qui était signé de la main de Monsieur Dufresne. Donc je l'ai laissé rentrer. Et naturellement, je l'ai placé au promenoir.
Eh bien voilà, on y vient, que de temps perdu. Pendant ce temps, l'assassin a eu tout le temps de s'enfuir. Un marin à cette heure-ci est peut-être à Amsterdam, ou à Barcelone, ou à Turin. Les policiers convoquent tous les employés du palace.
Bien. On nous a signalé la présence le soir du meurtre d'un jeune marin. Il nous faudrait un signalement plus précis. Est-ce que vous l'avez vu ? À quoi ressemblait-il ?
Et là, miracle, ils ont tous retrouvé la mémoire.
Il était grand, dans les 1m75,
Ah oui, très grand, 1m75 pour l'époque, c'est beaucoup.
Il était brun, très mince, avec le visage long, pâle, rasé, avec un nez long, très busqué, et des yeux verts.
Le signalement est immédiatement diffusé à tous les journaux, à la radio publique et bien sûr aux services de police. Et tant qu'à faire, on envoie au crédit municipal et à la chambre syndicale des horlogers la description précise de la montre en or, au cas où le voleur serait tenté de la revendre. C'est à ce moment-là que le légiste rend son rapport détaillé. Il a compté les plaies sur le visage et sur la tête d'Oscar Dufresne. 17, qui auraient pu être provoquées par un objet du genre manche de pioche, matraque ou queue de billard. Et surtout, il affirme qu'il n'est pas mort de ses blessures. Il est mort étouffé dans le tapis qui emballait son corps. Enfin, laissez-moi lire le passage qui concerne son entrejambe. Aucune lésion n'a été révélée au niveau des organes génitaux et de l'anus. Non plus qu'aucune trace de sperme, ni dans la bouche, ni dans l'anus. Par contre, l'examen microscopique a décelé, dans une gouttelette blanchâtre prélevée à l'extrémité de la verge, la présence des éléments du sperme. De même, les constatations faites sur le caleçon, souillé de sperme au niveau de l'entrejambe, autorisent à penser que des actes érotiques ont accompagné la scène de meurtre. Il a couché avant de mourir. Voilà ce que ça veut dire. Reste à trouver avec qui. Un spectateur, qui était ce soir-là au Promenoir, dit qu'il a vu Oscar Dufresne.
Ben, je l'ai vu sortir par une porte de secours. Avec un jeune marin qui avait un grand nez.
Le juge d'instruction Bru, qui vient d'être nommé, envoie un message à toutes les unités de la marine. Recherchons marin d'une taille supérieure à 1m70 qui aurait pu se trouver à Paris entre le 21 et le 24 septembre. La marine lui envoie une liste de 1700 matelots. Et dans la foulée, le juge est obligé d'envoyer des policiers les interroger, là où ils sont, c'est-à-dire à Saint-Malo, à Cherbourg, à Lorient, à Brest, à Rochefort, à Toulon, à Nice, à Villefranche et à Marseille. Beaucoup de temps perdu. D'autant que ça ne donne rien. Rien. Et pendant ce temps, la presse s'en donne à cœur joie. Le Petit Parisien, Détective, Paris Soir, Le Petit Journal se régalent de ces histoires de fesses entre garçons. Et tant qu'à faire pour vendre du papier, ils inventent une nouvelle piste, tout aussi sulfureuse que les histoires de fesses. Une piste qui colle au fantasme de l'époque, l'opium. L'opium, dans les années 30, c'est la drogue des artistes et de la bohème. Et voilà le délire des journaux. Dufresne aurait eu dans son coffre au palace une liste de trafiquants d'opium qu'il aurait commencé à donner à la police. Il s'apprêtait à en donner d'autres. Son meurtre a été commandité par des trafiquants. Tout ça, bien sûr, sans le début de la queue d'une preuve. À part ça, il faut que je vous dise, sur le bureau du commissaire Priolet, qui dirige l'enquête, il y a maintenant un gros tas de lettres, une centaine de lettres de dénonciation. La plupart anonymes, bien sûr. Je connais un marin qui a un grand nez et qui s'appelle un tel. Et tant qu'à faire, on dénonce aussi les hommes aux mœurs spéciales par centaines. Monsieur Dufresne, ce vicieux, aurait mérité qu'on le jette à la rivière dans un sac, comme on le fait avec un chat. Ces gens-là sont dégoûtants, et le marin qui l'a tué a bien fait. Il y a aussi cette lettre qui dénonce un homme qui n'a rien à voir avec l'affaire. Bien sûr, cet homme dont je vous parle ne correspond pas au signalement fourni par la presse de l'assassin de M. Dufresne, mais je crois pouvoir préciser qu'il a des mœurs contre nature. Et de plus, de par son origine bretonne, il n'avait rien à faire à Paris. C'est alors que se pose une question essentielle. On cherche un marin, et on a mis la marine sans dessus-dessous. Mais s'agissait-il d'un vrai marin? Parce qu'il faut que je vous dise qu'à l'époque, la figure du marin tient une place de choix dans l'éventail des fantasmes homosexuels. Hein, le marin, le beau marin, c'est la jeunesse, c'est la force, c'est la discipline, c'est la camaraderie masculine. Dans les rapports de police de ces années-là, on dit que le marin est particulièrement recherché par la gente masculine pour des rapports intenses et sans lendemain. Et la conséquence de tout ça, c'est que beaucoup de jeunes prostituées, hommes, se déguisent en marin pour appâter le client. Alors notre marin était-il un vrai marin ou un faux marin? Un vrai, ça n'est pas impossible. Il arrive que de vrais marins se prostituent pour arrondir les fins de mois. Mais depuis que les policiers ont découvert l'existence de faux marins, honnêtement, c'est surtout à eux qu'ils pensent. Vrai ou faux marin, la question reste sans réponse pendant de longs mois, jusqu'au mois de juin 1934. Un indique du quartier de Montmartre vient livrer à la police le nom d'un faux marin. « Moi, j'en connais un, moi. Paul Laborie. En vérité, tout le monde l'appelle Polo. Disons que c'est quelqu'un qui a le physique avantageux. C'est mieux pour aguicher les clients. Je suis certain que c'est lui qui s'est occupé de Dufresne. Vous pouvez y aller, hein. » Alors, où est-il, ce Polo? Et qui est-il? Dans le milieu, on l'appelle Polo les belles dents. Il a 23 ans. Il a eu récemment affaire à la police pour une histoire de drogue. Et il a disparu. Et quand a-t-il disparu? Le 25 septembre, le lendemain de l'assassinat de Dufresne. Drôle de hasard, hein? Et il serait revenu depuis en mars 1934 et il est reparti. En Espagne. On se met à le chercher en Espagne et on le trouve en Catalogne. Il se cachait sous le nom de Filippi. Paul Laborie est arrêté à Barcelone en septembre 1934. Il est extradé en France un mois plus tard. On a peut-être arrêté l'assassin d'Oscar Dufresne. Je dis peut-être parce que, en vérité, pour l'instant, il n'est désigné que par un indique. Mais sa fuite au lendemain du meurtre, son goût avéré pour les garçons et son habitude de se déguiser en marin font de lui un suspect idéal. Ce Paul Laborie est ce qu'on appelle dans ces années-là un apache, un voyou, un marlou. Il a 24 ans et depuis tout petit, sa vie va de travers. D'abord voleur, en grandissant maquereau, trafiquant de drogue et puis micheton de temps en temps. La tenue de marin, c'est un ami qui la lui prête. Et c'est vrai qu'il est parti le lendemain du meurtre du garni qu'il louait près de Pigalle.
Il est parti le 25, alors que son loyer était payé jusqu'au 28. Oh, moi, j'ai trouvé ça bizarre.
Donc, il a le profil. Et voilà le scénario que les policiers se font dans leur tête. Un jour avant le meurtre, Paul Laborie vient se frotter à Oscar au promenoir du palace. Oscar lui donne rendez-vous pour le 24 au soir à 22h. Ce soir-là, quand il a fini son affaire, la tâche à l'entrejambe, il veut dévaliser le coffre-fort. Alors il assomme Oscar avec une queue de billard sciée qu'il cachait dans sa vareuse. Il prend le trousseau des clés, il ouvre le coffre. Il ne contient rien d'intéressant. Alors il se contente du portefeuille et de la montre en or. Il replie le tapis sur Dufresne, qui n'est pas mort, il pose dessus le matelas, comme un couvercle, et c'est le matelas qui a étouffé Oscar Dufresne. Voilà comment ça a pu se passer. Sauf qu'il n'y a pas le début d'une preuve de tout ça. Le procès de Paul Laborie s'ouvre le 21 octobre 1935 devant les assises de la Seine. Il est accusé de meurtre avec préméditation, autrement dit d'assassinat. Il risque la peine de mort. Dès l'ouverture, le président met en garde les oreilles chastes.
« Je demande aux femmes et aux mineurs
ainsi qu'aux personnes sensibles de se retirer. Du fait des détails qui ne vont pas manquer d'être évoqués à cette audience.
Évidemment, personne ne bouge. S'ils sont venus, c'est bien pour entendre les détails dont parle le président. Nous croustillant, nous qui fait rire. Ils sont venus au spectacle voir des pédérastes. Alors pourquoi partir? L'avocat général lit l'acte d'accusation. Et là, il fait autant le procès d'Oscar Dufresne, la victime, que celui de l'accusé. Et l'auditoire voulait des détails, il leur en donne. Et on entend des « oh » et des « ah » dans toute la salle. Dans le dossier contre Paul Laborie, vous l'avez compris, il n'y a pas grand-chose. Sauf le fait qu'il se prostituait déguisé en marin et qu'il a quitté Paris le lendemain du meurtre. Et surtout le fait que des témoins disent l'avoir vu au promenoir juste avant le meurtre. Sauf que les témoins, les employés du palace, quand on les fait venir à la barre, ils ne le reconnaissent pas. Et on a trouvé des empreintes digitales sur les lieux du crime. Ce ne sont pas les siennes. On fait venir aussi un témoin qui se présente comme pédéraste professionnel.
Oui, j'ai eu des relations tarifées avec Monsieur Dufresne. Je le reconnais. Il était très généreux, il faut le dire. Et donc, à titre personnel, je pense que Paul Laborie n'avait strictement aucun intérêt à le tuer. Enfin, le tuer, c'était tuer la poule aux œufs d'or. Vous voyez.
Le lendemain, la presse résume l'audition des témoins. On a vu défiler les spécimens les plus pittoresques de la faune spéciale à certains milieux de Montmartre. Toutes les espèces d'invertis, depuis la grande courtisane jusqu'à la petite besogneuse de la pédérastie. Tout un monde à l'envers. Et à la fin, c'est absolument incroyable. L'avocat général requiert pour Paul Laborie les circonstances atténuantes.
Je considère que M. Laborie doit bénéficier de mansuétude du fait des mœurs de la victime.
C'est donc la faute du mort, s'il est mort. Et finalement, après 3 jours de procès, Paul Laborie est acquitté sous les applaudissements du public. Et on se quitte sur cette idée partagée par tous à l'époque, que Paul Laborie était peut-être l'assassin, mais que quoi qu'il en soit, Oscar Dufresne méritait bien ce qui lui était arrivé. J'ai tiré ce récit du livre de Florence Tamagne chez Payot, Crime au Palace.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.